RMC Intégral Tour.
Pour info, à l'époque, j'ai taquiné la pédale. C'est vrai.
Oui.
Voilà, je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France.
Bienvenue à la fête, camarade.
Virginie Fulpin.
Il est 20h05, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h. Je vous rappelle les principales infos sport du jour. Erwin Engap est entendu par la police. La star de l'équipe de France de volley aurait agressé un contrôleur de la SNCF ce matin à la gare Montparnasse à Paris. Il lui aurait demandé de retarder le départ d'un TGV pour attendre un de ses amis et la discussion se serait envenimée. C'est mon dernier Tour de France. Jean-Christophe Perrault a fait cette annonce lors de la journée de repos. Celui qui a fini deuxième du Tour l'an dernier est en souffrance cette année. On va en parler tout de suite. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon ne savent pas ce que veut dire jour de repos. Ils sont là, comme tous les soirs. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Virginie.
Il reste 5 jours de course. Hein. On compte là les jours maintenant hein, sur ce Tour de France.
Ça passe très vite.
Ça passe vite, hein, effectivement, ça passe vite. Dernier jour, deuxième et dernier jour de repos aujourd'hui. On a beaucoup de choses à dire avec vous au 32-16 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Je voulais commencer par Jean-Christophe Perrault qui a annoncé donc que c'était son dernier Tour de France. Ça vous a surpris comme annonce, là, comme ça, avant même la fin de ce tour?
Un petit peu. Je pense que sur la difficulté de ce tour, première semaine catastrophique, la grosse gamelle qui fait qu'il endure des journées atroces, et peut-être que c'est peut-être un peu rapidement pris comme décision. J'espère qu'il n'en voudra pas.
Il peut revenir sur sa décision après, effectivement, c'est peut-être un peu le ras-le-bol, quoi, c'est ça?
J'y ai pensé un petit peu parce que bon, tu sais, il suffit que l'année prochaine il fasse un très beau début de saison et qu'il fasse de belles performances juste avant le tour, qu'il peut très bien revenir sur sa décision, mais c'est vrai que.
Il parle du Giro, il veut se consacrer au Giro. On sait qu'on voit avec Contador la difficulté d'enchaîner les deux.
Et puis,
donc il faut pas se précipiter. C'est vrai qu'il s'est peut-être précipité un petit peu par rapport à ce qui s'est passé pour lui sur le tour cette année, mais bon, il se sent peut-être un petit peu fatigué et il a besoin peut-être de voir de trouver un autre horizon et puis comme le dit Thierry, le Giro, pourquoi pas l'année prochaine, et de faire une belle performance sur le Giro, et après il prendra peut-être le temps de réfléchir selon sa performance du Giro s'il doit faire le Tour de France ou pas.
Ouais, parce que c'est pas facile de prendre une décision pareille à chaud comme ça alors qu'on a été en souffrance pendant tout le tour, quoi. Forcément on n'a pas envie, là maintenant je me mets à sa place, de s'y remettre tout de suite, mais faut laisser reposer un peu tout ça peut-être.
Ce qu'il a dit, c'est surtout qu'il a passé tellement de bons moments l'an dernier et que cette année c'est complètement l'inverse, c'est catastrophique pour lui, donc
bon, faut garder en tête les bons moments de l'an dernier, quoi.
Ne pas oublier non plus qu'il arrive dans qu'il avance dans l'âge, hein, comme tout le monde, mais lui a quand même 38 ans, et donc il arrive en fin de course, faut le dire.
En fin de carrière.
Alors on va parler des Alpes, hein, de ces 5 jours de course qui restent et de ce qui peut se produire lors de ces 5 jours de course. On a Pierre-Alexandre qui nous appelle au 32-16. Bonsoir Pierre-Alexandre.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir. Salut.
Alors, tu voulais parler, je crois, de la Movie Star.
Alors, je voulais parler de plusieurs choses, en fait, parce que c'est vrai que vous avez reçu Monsieur Bernaudot, Monsieur Prudhomme, et effectivement, je voulais parler de la Movie Star. Juste deux petites choses avant de parler de la Movie Star. D'abord, tirer un grand coup de chapeau à Jean-Christophe Perrault, parce qu'il a connu un tour vraiment très difficile, et il fait preuve de beaucoup de courage, et donc je pense qu'on doit tous être admiratifs de ce qu'il fait. Donc voilà, j'espère qu'il va l'année prochaine faire encore une belle saison avec le Giro. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et une deuxième petite chose, et ça va peut-être vous surprendre un peu, c'est que Monsieur Bernaudot a dit il y a quelques jours, en parlant du retour d'Armstrong sur le tour One Day Ahead, il a dit oui, il retourne sur les lieux du crime. Alors je vous dis un truc, moi ça m'a assis quand il a dit ça, parce que moi j'ai découvert le vélo grâce à Armstrong en 99. Ce type, j'ai trouvé que c'était un champion formidable. Il a menti, c'est très moche. Il a menti, c'était effectivement honteux, etc. Mais c'est pas un violeur, c'est pas un assassin. Faut savoir quand même, je pense, garder son calme. Et Monsieur Bernaudot, sur ce coup-là, à mon avis, s'est planté complètement. Armstrong il a payé peut-être plus cher que d'autres et plus cher que Ulrich comment il s'appelle, Bjarne-Riis, qui ont toujours leur tour accroché au palmarès alors qu'ils ont triché. Mais ça, personne n'en parle. Voilà, c'est le mouton noir, etc. Il est lynché. Bah, moi, Armstrong, je continue à le considérer toujours comme un grand champion, même si ce qu'il a fait, c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est le deuxième.
Je suis entièrement d'accord.
Ouais. Non, mais voilà. Après, moi, d'ailleurs, vous avez fait un sondage sur votre, sur le site internet RMC Sport. Est-ce qu'il mérite de revenir? Ou est-ce que ça vous paraît normal qu'il soit de retour sur le tour? Les gens continuent à l'aimer et ça a été un super coureur. Et pourquoi on n'a pas attribué les tours au deuxième? Parce qu'on savait très bien, et Ulrich l'a dit, qu'à cette période-là, il y avait du dopage. Et il suffit de lire le livre de Tyler Hamilton pour le comprendre. Donc voilà, moi je continue à l'apprécier.
Mais parlons quand même plutôt du Tour de France en ce moment. Armstrong, on l'a beaucoup vu quand même.
Non, on l'a pas vu sur le Tour. Hein.
Non, on l'a beaucoup vu sur le Tour avant.
Alors, moi, la Movistar, j'ai l'impression, et peut-être que Thierry et Luc, vous allez pouvoir me donner un peu votre avis là-dessus, qu'ils courent en fait assez mal. Ils ont Valverde et Quintana, là, c'est vraiment une paire formidable. Le souci, c'est que dans le col de Mans, Valverde n'a pas, à mon sens, assez aidé Quintana. Et est-ce qu'ils ne devraient pas, finalement, les Movistar, accélérer le rythme, durcir la course beaucoup plus tôt pour permettre à Quintana d'attaquer un coup un peu, on va dire, un peu affaibli. Parce que quand j'ai vu Valverde sur le col de Mans, j'ai eu l'impression qu'il courait, je ne savais même pas s'il courait dans la même équipe que Quintana ou pas, quoi. Donc, je trouve que la tactique est mal en point, d'autant qu'on voit que Van Garderen est pas au top. Donc Valverde accélère, Van Garderen pourrait entre guillemets exploser et sortir du groupe. Donc je sais pas si ce que vous en pensez. Moi je pense que la Movistar aurait plutôt intérêt à durcir la course pour après fatiguer Froome et que derrière il y a une attaque de Quintana pour après pourquoi pas faire un exploit.
Oui, mais c'est ce que je dis depuis un petit moment d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il faut pas attendre la dernière ascension pour essayer de mettre à mal les équipiers de Froome. Là, on sent peut-être une petite faiblesse depuis quelque temps de Richie Porte et de Thomas Gerrans. Thomas, voilà son prénom. Je pense qu'il depuis l'étape de Mende, ils ont un petit coup de moins bien, et je pense qu'il faut exploiter un petit peu cette petite difficulté au sein de la Sky pour essayer dès demain dans le col d'Alos d'essayer de mettre à mal un petit peu les deux équipiers qui sont très très forts aux côtés de Froome et de pouvoir l'isoler avant la dernière montée pour que peut-être Quintana et Valverde puissent essayer de faire la finition. Alors après, est-ce qu'ils en auront les moyens, les Movistar? Je pense que oui. Quintana, il a la condition aujourd'hui pour pouvoir attaquer individuellement Froome et de le mettre en difficulté. Après, Valverde, c'est pas le dernier des coureurs. Il a l'occasion aussi de pouvoir faire un boulot avant l'attaque de Quintana pour essayer de faire travailler un petit peu Froome. Donc, on va le voir, mais c'est vrai que c'est évident sur ce tour et surtout sur cette dernière étape d'attaquer de loin et de ne pas attendre la dernière ascension pour essayer de mettre en difficulté Froome. Je sais pas ce que tu en penses, Thierry.
Ah, il faut avoir des jambes pour faire tout ça. C'est clair que là, je regarde les graphiques, il y a le col de la colle. On va voir qui sera collé dans le col de la colle. Mais si on peut attaquer déjà dans le col de la colle, enchaîner le col de la Dalos, et on a vu sous le Dauphiné, hein, ils ont perdu quand même pas mal de coureurs dans cette dernière montée. C'est pas la longueur, c'est la vitesse à laquelle ils vont la monter avec des à-coups. Et ça peut faire péter Van Garderen, qui n'aime pas forcément les à-coups dans l'école, qui est pas un pur grimpeur. Alors avec les trois grimpeurs que nous avons, Quintana juste derrière Froome, Valverde, Contador, Nibali va s'en charger s'il a retrouvé ses jambes, ça risque d'être beau. Ne nous emballons pas chaque fois que le lendemain d'une journée de repos, on s'emballe un peu et de suite on nous remet à l'heure.
Oui, en plus, il y aura, Virginie, il y aura quand même une bataille derrière Froome et Quintana. Disons qu'il y aura deux courses dans la course, quoi. Il y aura la course pour le podium, pour la troisième place. Après, il y a la course pour la première place avec Quintana et Froome. La troisième place, tu as Valverde, tu as Van Garderen quand même, Valverde n'est pas très loin de Van Garderen. Tu as Contador qui n'a pas envie de finir le tour en queue de poisson et d'essayer de prendre la troisième place.
Il y a encore beaucoup de choses à regarder dans ces cinq derniers jours.
Derrière qui vont faire aussi une deuxième course dans la course, donc ça risque quand même d'être animé.
D'ailleurs, Valverde, il y a également Samy qui veut nous en parler au 32-16. Valverde, c'est un coureur dont tout le monde a envie de parler, j'ai l'impression, ce soir. Bonsoir Samy.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Bon, déjà, je voulais saluer Thierry Bourguignon et surtout Luc Leblanc, non pas pour faire de différence, mais parce que Luc Leblanc, c'est quelqu'un de très sympathique, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en course,
il y a très longtemps,
et d'une gentillesse énorme. Juste une chose, moi, il y a quelque chose qui me fascine chez Valverde, c'est un coureur. On va remonter, comme vous le disiez tout à l'heure, 10-15 ans en arrière, mais il me rappelle un peu Jalabert, proportion gardée, parce qu'il court de janvier à décembre, on va dire ça comme ça. Et je voulais lui rendre hommage parce que quand même, sur ce tour, il est quand même présent. J'ai encore en souvenir Raymond Poulidor à la télévision avoir dit que c'était celui qui l'impressionnait le plus. Je suis 100% d'accord avec lui. Maintenant, son jeu, moi, il y a une chose que je comprends pas chez lui, pourtant j'apprécie ce coureur, c'est que je trouve qu'il est pas assez à l'attaque. Et je sais pas si c'est votre auditeur précédent qui l'avait dit, en sachant que Van Garderen, l'Américain qui se trouve troisième, TJ Van Garderen, je pense qu'il y a une possibilité d'aller chercher facilement la troisième place. Il est toujours à la ramasse dans l'école. Quand je dis la ramasse, c'est bien sûr, il n'est pas dans le groupe Eto, mais il est quand même 2-3 minutes ou 1 minute 30 derrière. Moi, je pense qu'il devrait attaquer. Et je pense que pour Froome, pour moi, ça c'est mon avis, il a course gagnée, ça je pense. Ils vont l'attaquer, mais je pense que s'il est trop fort, et je pense même qu'il va gagner à l'Alpe d'Huez. Il va tout faire pour gagner à l'Alpe d'Huez, comme c'est une étape mythique. Je pense qu'il va tout faire pour gagner. Maintenant, moi, ma question, elle est la suivante. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez qu'il va finir sur le podium? Est-ce que vous pensez qu'il va attaquer ces prochains jours? Et voilà. Et je vous remercie RMC pour m'avoir donné la parole, et faites du très bon travail. Voilà.
Et de rien, Samy, et merci beaucoup pour cet appel au 32-16. Lucho Bourgui, c'est à vous.
Ah oui. Alors j'ai frotté ma boule de cristal,
ah,
et il est apparu un certain Froome, un certain Quintana et mon petit Contador qui va griller la politesse à Valverde. Non mais il y a quand même cinq coureurs dans la minute. Donc pour la troisième place, même la deuxième place, parce que Quintana est à 3-10, 3-32 pour Van Garderen, qui je pense est le plus faible de tous les prétendants au podium, 4-0-2 pour Valverde. Valverde va faire du travail forcément pour Quintana, et pour moi il fait son meilleur tour qu'il ait jamais fait, parce que contrairement à l'auditeur précédent, on l'a vu à l'attaque, et de belles attaques, et il prépare le terrain à Quintana. Donc arrivé à un moment, il sera obligé de se sacrifier un petit peu pour Quintana, parce que Quintana a déjà plus d'une minute sur lui. Donc voilà, après on va bien voir déjà demain la récupération de chacun, et la fameuse deuxième journée de repos va-t-elle faire des dégâts comme la première.
Surtout qu'elle était chaude aujourd'hui, la journée de repos quand même. Elle était très orageuse en fin d'après-midi, mais c'est vrai que les coureurs qui ont été s'entraîner aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'ils avaient beau temps, ils ont pu profiter un petit peu du panorama extraordinaire que nous avons sur Gap, Embrun, Savines-le-Lac. Après, ils ont dû certainement, ceux qui préparent le classement général, ont dû certainement monter une ou deux petites bosses assez longues pour pouvoir se mettre en jambes pour demain, mais on risque d'assister certainement à des écarts je dirais entre les meilleurs peut-être. Ils risquent peut-être d'y avoir des surprises par rapport à cette journée de repos qui risque de faire mal, et surtout en troisième semaine.
Et attention, Lucho, a priori, il nous annonce beaucoup d'orages sur les Alpes du Sud.
Donc un peu de pluie dans la dernière descente.
Donc ça va compliquer. Certains n'aiment pas, du moins, personne n'aime prendre des risques sous la pluie, mais il y en a qui vont. Ouais, mais Sagan ne sera pas là hein, quand même pour le général. Il s'est bien reposé. Mais ce qu'il nous a montré les trois derniers jours, je pense qu'il ne sera pas là.
Ouais, je pense aussi.
Et son boulot a été fait.
Merci ben... beaucoup, en tout cas.
Merci, Samy, à très bientôt sur l'antenne d'RMC.
Merci, au revoir.
Alors, ciao. Par exemple, qu'on soit Chris Froome ou qu'on soit ses poursuivants, est-ce qu'on utilise cette journée de repos différemment? C'est-à-dire que moi, je suis Quintana, j'ai 3 minutes 10 de retard. Qu'est-ce que je fais de cette journée de repos-là? Est-ce que j'utilise pour essayer de conclure des alliances avec les autres ou pas?
Ouais, non, du tout. Il va pas aller dans les hôtels des autres équipes pour savoir ce que les autres vont faire et comment attaquer Froome. Mais de toute façon, c'est lui qui détient les clés de son peut-être prochain succès d'ici dimanche. Après, il a certainement fait une belle journée de repos. Il a dû faire une belle sortie d'entraînement. Il a dû certainement monter peut-être un ou deux cols pour un petit peu se tester, parce qu'il aura peut-être besoin de se tester et de se mettre, je dirais, en condition pour demain. Donc voilà. Mais le fait de parler avec d'autres équipes et des coureurs pour
Il n'y a pas de mafia, mais juste
comme on s'organise entre équipes, enfin tout simplement pour essayer de contrer ceux qui sont devant. C'est normal. Hein, c'est,
oui, mais attention. Là, on est tous adversaires. Les équipes sont toutes adversaires les uns les autres.
Et tout le monde tient à sa place.
Donc, et ça sera la course qui va décider d'alliance de circonstances, comme on dit. Mais c'est compliqué. On l'a vu. Quand c'est le quatrième qui attaque, le cinquième roule pour essayer de garder sa place. Ou quatrième, le troisième. Tout le monde tient à sa place et tout le monde va faire le jeu du maillot jaune. Forcément.
Alors, il y a Jean-François qui nous appelle au 32-16. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir.
Salut, Jean-François.
Un des autres événements de cette journée, c'est aussi que la Sky donc a publié des données de performance de Chris Froome. C'est ça dont vous vouliez parler, Jean-François?
Ben, en fait, oui. Je voulais revenir là-dessus. C'est qu'on nous sort tout un tas de statistiques et de chiffres donc qui concernent des données qui... pour le commun des mortels dont je fais partie, sont assez vagues, à savoir les watts, les cadences de pédalage, les rapports poids-puissance, etc. Mais je voudrais savoir si on a des éléments de comparaison en termes de temps de montée sur des montées, entre guillemets, un peu de référence, par exemple le plateau de Bay, ce genre de choses, où Chris Froome a fait des performances un petit peu... pour le moins suspect, on va dire. Donc,
Le plateau de Bay, oui, il y a des résultats au niveau de la montée, au niveau du temps. Je crois que là cette année, Chris Froome a fait le quatrième temps depuis que le Tour monte le plateau de Bay. Donc c'est pas non plus, tout écrasé.
Tu sais comme moi que ça dépend de beaucoup de paramètres, voilà, le temps, le vent. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui font. Ça dépend de la course que vous avez. Quelqu'un peut gagner au sommet du plateau de Bay sans forcément monter très vite si l'adversité n'est pas à sa hauteur. Donc moi j'aime pas ces temps de comparaison. Il y a rien qui, c'est comme d'une époque à l'autre, on peut pas comparer. Voilà. Et après, une chose est sûre, c'est que tous les chiffres qu'on nous jette comme ça à la figure, c'est dur à analyser. Il y a que des grands spécialistes, des
mais d'ailleurs,
des professeurs.
Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils le font? Parce qu'on sait très bien que là, c'est pas, personne va prendre ces chiffres là et dire ah bon, alors oui, tout de suite en 5 minutes là. Donc
mais il y en a certains, mais non, mais ils ont tellement été décriés qu'ils apportent une réponse, c'est déjà bien.
Voilà, mais je dirais que même c'est pénible de à la limite aujourd'hui de pouvoir se justifier par rapport à Bradford qui a fait donc les tests et tout ça, poids, puissance, voilà, les calculs pour bien justifier la bonne foi de Froome. C'est dommage et c'est triste d'en arriver là quand même.
Mais oui, mais bon, ça c'est l'histoire qui les oblige à faire ça aussi, hein. C'est parce que on est passé justement par des époques où on ne justifiait rien et donc tout restait dans le flou. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal justifier tout de suite, quoi.
Virginie, de le justifier dans le cyclisme, c'est très bien, mais de le justifier dans les autres sports, c'est encore mieux.
Mais je sais, ça c'est ton cheval de bataille, Lucho, et ça on
n'est
pas...
C'est pas mon cheval de bataille, Virginie.
Mais je comprends
mais c'est
que
vrai
tu veux
que
dire...
tous les ans, dès que le Tour de France arrive, ça y est, on reparle des performances des uns, des autres, on calcule la montée, d'une montée et tout, mais est-ce qu'on calcule quand un joueur de tennis balance une balle à plus de 220 km/h, est-ce qu'on se pose la question? voilà.
L'autre chose, en fait, on a commencé à parler de ça à partir du moment où, à partir du 14 juillet, quand Chris Froome a tout écrasé, alors qu'on s'y attendait pas forcément, en tout cas à ce point-là. Donc c'est sa performance qui a conduit à ça. Avant, au départ du Tour de France, c'est pas vrai, on n'était pas en train de dire ça, quoi.
Virginie, si on regarde les temps de montée, c'est pas Froome qui a le meilleur temps.
Ah, mais c'est intéressant, ça, justement, je trouve ça intéressant.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais le meilleur temps, c'est son équipier qui l'a fait. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai.
Mais bon.
Voilà. Jean-François? Oui, en fait, mais bon, déjà, par rapport au temps de, enfin, au temps de référence, c'est vraiment innocent, ma question. C'est pas du tout sur le sujet de la polémique, parce que moi-même, je fais un peu du vélo en amateur, personnellement.
Ouais.
Je sais que c'est très dur, j'habite dans une région plutôt montagneuse, et je sais que c'est en Corse.
Ah, bravo la Corse. C'est bien. J'y vais dans 15 jours, hein.
Voilà, donc, bienvenue.
On va rouler ensemble.
On se verra peut-être sur les routes, dans la région du sud de Bastia. Donc,
c'est la même.
Voilà.
Rendez-vous à.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, mais moi c'était juste pour dire, je voulais pas polémiquer là-dessus, mais bon, c'était pour savoir un petit peu si les trois premiers temps, c'est qui concrètement, parce que si on commence à citer Pantani, on commence à parler de Pantani,
Armstrong.
Armstrong ou je veux dire ou des gens comme
Pantani, Armstrong, c'est déjà assez parlant
donc,
comme exemple.
Je veux dire, si malheureusement ce genre de choses se produisent, malgré tout, je me mets à la place des gens qui sont derrière et qui se disent bateau de veille, on va pouvoir faire ce qu'on veut, mais ça va être compliqué pour prendre la roue de Froome, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est pas après c'était juste ça, mais après j'espère qu'on n'en apprendra pas de mauvaises nouvelles et que ce tour se terminera dans de très bonnes conditions et que
il se terminera bien, t'inquiète pas, il se terminera bien.
Merci beaucoup Jean-François, d'avoir appelé 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. J'ai une dernière question pour vous deux. Est-ce qu'un Français est capable de s'imposer dans les Alpes là? Parce qu'on attend que ça maintenant aussi.
Sur une étape.
Sur une étape,
bien sûr. Le Tyrone Bardet qui arrive de mieux en mieux. Il faut chercher, il faut regarder entre les lignes quel est le Français qui peut éventuellement gagner une étape. Alors à la pédale, c'est impossible. Mais par contre, en partant de loin,
un coup de loin, oui.
Voilà.
Bardet, ça va lui donner des idées demain. Arrive, je vous rappelle, Dauphiné de cette année, il a gagné la même étape en faisant la descente du col d'Alos.
C'est vrai qu'à la limite, on aurait pu le mettre vainqueur demain.
C'est trop facile, c'est comme on aime bien perdre.
C'est vrai que là, leur but, ça ne peut être que ça maintenant, une victoire dans les Alpes, et puisqu'on n'a pas eu un tour terrible chez les Français, ça remettrait tout le monde de bonne humeur, ça.
C'est pas si mauvais que ça.
Je dis pas que c'est mauvais,
ils sont pas dans le coup pour la gagne, pour le podium, mais ils n'ont pas été si moches que ça sur le tour. On a vu pire,
mais une victoire dans les Alpes. Ça serait bien,
ça serait une belle conclusion pour les Français, ouais.
L'année dernière, il y avait eu deux victoires, je vous rappelle, victoires.
On en est à une.
Et puis la dernière, il y a deux ans, il n'y avait qu'une victoire, on l'a attendu l'avant-dernier jour dans l'Alpe d'Huez.
Avec Riblon qui était présent à l'étape de Gap, il était dans l'échappée hier et il sent bien la course. Oui, mais c'est un vieux briscard qui sent bien la course et il sent bien les bons coups.
Allez, on va dire que ça va se passer comme ça. Merci beaucoup à tous les deux.
On va vous retrouver demain
dès 14h pour la 17e étape entre Digne-les-Bains et Pralou. Ce sera en intégralité sur RMC. Nous, on se retrouve tous les trois 20h demain. Dans un instant, place au foot, Nolan Roux, le nouvel attaquant de l'AS Saint-Etienne, sera en ligne avec nous. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
Il est 20h31, c'est l'intégral tour sur RMC jusqu'à 21h. Notre invité est Nolan Roux, qui quitte Lille pour Saint-Etienne. L'attaquant a signé pour 5 ans chez les Verts aujourd'hui. Il est en ligne avec nous. Bonsoir Nolan.
Bonsoir.
Alors d'abord, comment vous vous sentez là en ce jour de signature?
Très bien, très bien et très content d'être stéphanois. Je suis arrivé dimanche soir et j'ai rencontré les dirigeants le lundi. J'ai passé ma visite médicale et ensuite le mardi j'ai pu passer l'entraînement avec les nouveaux coéquipiers et puis derrière on a officialisé la signature donc voilà, je suis très content de le rejoindre la Saint-Étienne et beaucoup d'envie de faire du mieux possible et de jouer les premiers matchs.
Et alors justement le premier match ça va pas tarder hein, je crois que c'est dès demain un match de préparation face à l'Ajax Amsterdam. Est-ce que vous allez déjà être prêt pour jouer ce match là?
Oui je suis prêt, j'ai raté juste un match amical avec le LOSC et puis un entraînement car le transfert était fait donc je me suis pas entraîné, j'ai pas joué, mais oui je suis prêt. Après c'est vrai que physiquement j'ai fait une bonne préparation, j'ai pas loupé l'entraînement à part le dernier. Là je suis dans la découverte des nouveaux coéquipiers dans des choses comme ça, mais en tout cas physiquement je suis prêt à jouer.
Oui, puisque vous êtes préparé comme pour une saison normale de toute façon.
Une saison normale, voilà, de toute façon j'ai suivi la préparation, même si dans un coin de ma tête avec le LOSC qui voulait que je parte, je m'étais fait à l'idée donc j'ai été sérieux, je me suis bien préparé.
Et alors cette découverte des nouveaux coéquipiers, c'est toujours un moment un petit peu stressant, j'imagine. Comment ça s'est passé pour vous?
Non, pas du tout stressant. D'extérieur, quand on voit l'équipe de Saint-Étienne, on voit une bande d'amis aussi qui prend du plaisir sur le terrain. Et quand on arrive, on ressent la même chose. J'ai la chance aussi d'avoir deux anciens coéquipiers, Kevin Monet-Paquet, avec qui j'ai fait ma formation à Lens, et puis Paul Bayce, avec qui j'ai joué pendant deux saisons au Stade Brestois. Donc, je vais pas dire j'arrive dans l'inconnu, mais je connais deux personnes qui sont là depuis un petit moment et qui partagent un peu les mêmes caractéristiques que moi, donc c'est bien.
Et dans les automatismes du jeu, il faut forcément un petit peu de temps, c'est pour ça que j'imagine que vous voulez jouer tout de suite.
Oui, voilà, c'est ça. Plutôt on trouvera les automatismes avec les autres joueurs, mieux ce sera. Donc c'est vrai que c'est plutôt de ce côté-là que je prends les choses au vu du match amical de demain, de trouver mes marques et de trouver cette relation particulière avec les nouveaux coéquipiers qui est très importante.
C'est particulier Saint-Étienne comme club, hein. Il y a une histoire qui pèse lourd, il y a de nombreux, très nombreux supporters. Ça vous fait pas peur tout ça?
Pas peur du tout, au contraire, j'aime ces ambiances-là, j'aime l'engouement du public. C'est vrai que c'est pas pareil, mais j'ai connu Brest qui a cette ferveur aussi, et là ça ressemble un peu. On voit les gens qui sont pour le foot, qui sont à fond derrière leur équipe et qui viennent tous au stade et qui mettent une grosse ambiance. Ce côté-là, j'adore. Quand on est sur le terrain et qu'il y a tout un public qui pousse, quand on est là à jouer, on se bagarre jusqu'au bout et on prend du plaisir. Donc c'est pas stressant, c'est une sensation, l'envie de vite découvrir ce que ça provoque et de pouvoir aussi justement montrer que je suis là pour faire de belles choses avec l'AS Saint-Étienne.
Justement, vos objectifs avec l'AS Saint-Étienne, quels sont-ils là au moment de cette signature?
Eh ben déjà la première, c'est de se qualifier en Europa League. Déjà c'est la plus importante. Et ensuite c'est comme je dis souvent, j'ai un peu le même mot d'ordre, c'est de prendre du plaisir sur le terrain. Gagner des matchs et marquer des buts. Voilà, ça c'est mon côté personnel. C'est vraiment de prendre du plaisir et de marquer le plus de buts possible et contribuer à une belle saison. Alors oui, ça peut prendre un petit peu de temps. J'espère le moins possible parce que justement je découvre ce club, mais j'ai aussi une facilité d'adaptation parce que je suis attaquant et j'ai besoin de me dépenser et de montrer aussi que les dirigeants ont bien fait de me faire confiance.
J'imagine que vous avez discuté avec Christophe Galtier, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne.
Bien sûr, avant le transfert, je l'ai eu deux fois au téléphone et son discours, m'a rassuré, mais voilà, j'attendais ce discours-là d'un entraîneur, le fait d'avoir envie que je vienne et ça m'a vraiment motivé, même si déjà le fait d'avoir l'AS Saint-Étienne qui vous contacte, c'est déjà beaucoup, et en plus de ça, d'avoir la confiance d'un entraîneur, on n'a qu'une envie, c'est de la rendre sur le terrain.
L'AS Saint-Etienne a pas forcément été une équipe très offensive l'année dernière, donc vous avez une carte à jouer là-dessus, hein.
Oui, bien sûr. Après, vous savez, offensivement, en Ligue 1, c'est difficile aussi, hein. Mais voilà, on s'attache à travailler. L'année dernière, pour le LOSC et pour ma part, ça n'a pas été une saison facile non plus. Donc voilà, il y a des choses à retenir dans la difficulté. On travaille justement pour rendre les choses meilleures. Et c'est dans cet esprit-là que je vais attaquer le premier match d'Europa League le 30 juillet.
Alors vous quittez Lille, le nouvel entraîneur ne comptait plus sur vous. Hervé Renard, ça a été difficile ça à vivre?
Non, après j'ai très bien compris, le club a voulu changer, il me restait un an de contrat. Voilà, je connaissais pas Hervé Renard, je l'ai eu au téléphone longtemps avant la reprise, qui m'a fait part de son projet, et j'en faisais pas partie. Je comprends très bien, c'est le foot aujourd'hui, vous faites une saison, derrière vous n'en faites plus partie, c'est comme ça, c'est le football, je n'ai pas mal pris, j'en veux à personne. Je respecte les choix du coach, il avait envie de changer. Voilà, moi j'ai réussi à trouver mon bonheur ici, donc c'est le principal aussi. On est tombé d'accord, même si sur la fin le club ne voulait plus que je parte. Malheureusement, je pouvais plus rester au vu des discours de l'entraîneur.
Si vous aviez un message à faire passer là aux supporters de Saint-Etienne ce soir, ce serait quoi, Nolan Roux?
Un message à faire passer, j'allais dire venez nombreux, mais c'est un peu bête parce qu'ils sont toujours pleins, donc non, mais je les connais pas encore, mais en tout cas j'ai hâte de les découvrir et j'ai hâte de marquer mes premiers buts avec l'AS Saint-Etienne pour les fêter avec eux.
Je pense qu'ils apprécieront ça. Vous êtes du genre à discuter, vous, parfois, avec les supporters qui viennent avec vous voir, vous entraîner?
Bien sûr, bien sûr. Je suis quelqu'un qui aime le foot populaire parce que c'est la base. Et dans mon jeu aussi, c'est un peu ça, c'est de s'arracher sur le terrain. Alors, des fois, on est moins efficace, des fois, on est moins beau que d'autres. Mais je m'attache à des valeurs que j'ai et ces valeurs représentent les Saint-Etienne aussi.
Merci beaucoup, Nolan Roux, d'avoir passé quelques minutes avec nous sur RMC. Et à très bientôt sur notre antenne. Bonne chance à Saint-Etienne.
Merci. Au revoir.
Alors, que pensent les supporters stéphanois de l'arrivée de Nolan Roux? Eh bien, on va le savoir tout de suite avec Jean-Christophe qui nous appelle au 32-16. Bonsoir, Jean-Christophe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Alors, Jean-Christophe, d'abord, vous avez entendu ce qu'a dit Nolan Roux, notamment sur son rapport avec les supporters stéphanois. Ça vous fait plaisir déjà?
Bon, je dirais que c'est de bonne guerre. On sait que pour un joueur, le fait de jouer à Saint-Etienne, il sait qu'il va avoir une relation particulière avec le public, parce que c'est vrai que ça fait partie d'une des composantes, d'une des forces du club. Donc je dirais que je pense que quand on est joueur de foot professionnel, jouer à Saint-Etienne dans un stade avec ce genre de public, c'est toujours emballant et motivant. Donc on ne peut qu'apprécier, je dirais déjà, son état d'esprit de vouloir conquérir le public stéphanois. Donc on est content de son état d'esprit, quoi qu'il en soit.
Donc voilà, sur la communication, c'est bien. Maintenant, est-ce que Nolan Roux, c'est l'attaquant que vous aviez envie de voir à Saint-Etienne?
Je dirais que c'est l'attaquant aujourd'hui, Maïdine Milligan, qui rentre parfaitement dans le profil de joueur que souhaite recruter la CSE. C'est un joueur qui connaît bien le club, qui connaît bien la Ligue 1. On sait que c'est un joueur que ce garçon-là, en confiance, peut se situer entre 9 et 15 buts par saison. Donc voilà, donc il sort d'une saison ou de deux saisons un petit peu compliquées avec Lille. C'est un garçon qui peut jouer en pivot, qui peut être aussi un point d'ancrage sur je dirais l'attaque stéphanoise, alors que on avait un petit peu le perdu depuis que Brandao avait été, je dirais, le joueur qui nous avait permis d'avoir un petit peu cette variété dans le jeu en attaque. Maintenant, je dirais que marquer des buts, c'est bien, mais c'est surtout l'animation qu'il y aura autour de lui, donc c'est vite trouver des automatismes. Mais je dirais que Nolan Roux fait partie à la fois des profils sportifs et financiers abordables par les CSE aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas l'attaquant qui marque 25 buts par an et qui est très cher, mais qu'on peut pas se payer. Donc je pense que pour Saint-Etienne, c'est un peu moins exotique que Van Wolfsbeek l'année dernière, qui était un pari qu'on n'a pas réussi. Là, on prend peut-être un petit peu moins de risques avec leur nom.
Et donc, Mevlut Erding s'en va. Numériquement, il est remplacé par Nolan Roux. Pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle, donc?
Bah, je dirais que c'est une nouvelle qui, c'est une assurance un peu, pas tout risque, mais c'est quelqu'un qui sait que, on sait très bien que Nolan Roux ne va pas mettre 6 mois à s'accommoder à la Ligue 1. Il connaît bien le championnat, il connaît bien le contexte foot français. Voilà, moi je suis surtout en attente de l'animation et des solutions en attaque qu'il pourra proposer par rapport à ce que proposaient les attaquants l'année dernière, que ce soit Erding ou Ricky Van Wanskinfeld. Donc voilà, maintenant, avec Amouma et Gradel, si Gradel reste, ça peut être un trio d'attaque intéressant.
Alors Gradel, ça n'a pas l'air d'être quand même très très bien parti pour qu'il reste. Il y a un autre attaquant qui pourrait rejoindre éventuellement Saint-Etienne, c'est Jean-Christophe Baebek, le joueur du Paris Saint-Germain, qui pourrait être prêté à Saint-Etienne. Il joue très peu à Paris. C'est un joueur qui peut apporter quelque chose au Vert.
Encore une fois de plus, ce sera dans la logique stéphanoise aujourd'hui, malheureusement, de nos moyens un petit peu limités. Baebek, je pense que peut être dans le même profil que Gradel. Ça voudrait dire qu'il remplacerait numériquement poste par poste Gradel. Voilà, moi je serais plus en attente d'un joueur capable de faire des passes décisives. On a vu que Benjamin Cournier l'année dernière a été transparent, et il nous manque un joueur capable de faire la différence sur une deux passes décisives. Et c'est vrai que peut-être.
Mais est-ce que ce sont les joueurs, ou est-ce que c'est aussi le jeu de Christophe Galtier aussi qui n'est pas assez porté sur l'offensive?
De toute façon, moi je respecte entièrement le travail de Christophe Galtier, donc on peut le critiquer peut-être sur ses options de jeu, quoi qu'il en soit, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il nous amène dans les 4 ou 5 premiers du championnat. Maintenant, je dirais que la chance et la force de l'entraîneur, c'est de faire évoluer son équipe et d'avoir des joueurs capables de le faire. Donc si Nolan Roux lui amène des solutions différentes que les attaquants de l'année dernière, ce sera certainement positif. Moi je vous dis, j'attends surtout un joueur plus créatif, plus capable de marquer de loin, capable de faire une passe décisive. Et bon, que ce soit Baebek, Gradel ou Amouma sur les côtés, ça peut être des joueurs intéressants. Mais voilà,
mais Amouma qui vient aussi de prolonger d'ailleurs, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle
aussi,
pour Saint-Etienne.
Je pense un excellent. Ça fait partie des transferts. Enfin, pour moi, c'est une excellente nouvelle aussi pour le mercato stéphanois. On arrive quand même à conserver nos joueurs importants qui, en plus, Amouma n'a pas fait une grande saison, a été blessé. On peut espérer que cette année, ils puissent retrouver un peu plus de fraîcheur. Voilà.
Parce que tout ça, ça se fait sans beaucoup d'argent quand même. Hein.
Pardon ?
Parce que tout ça, ça se fait sans beaucoup d'argent.
Eh bien voilà, on fait avec nos moyens. Pour l'instant, on sait que le club sort de différentes années difficiles. L'année prochaine, le stade pourra permettre de nouvelles recettes. Et on sait très bien qu'aussi, les nouveaux droits télé permettront dans un an d'avoir un peu plus d'aidance financière. Mais je crois que c'est le lot de toute la Ligue 1. Mais je crois que Saint-Etienne est quand même loué pour sa gestion. Je crois qu'il faut s'en féliciter plutôt que, je dirais, vouloir dépenser à tout prix. Maintenant, voilà, je pense qu'on fait avec nos moyens. Et pour l'instant, je vous le dis, Nolan Roux, c'est pas un pari trop risqué pour les Verts.
Merci beaucoup Jean-Christophe de nous avoir appelé au 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. On va parler dans un instant d'un club qui a beaucoup plus de moyens que la Saint-Etienne, ça c'est sûr. C'est le Paris Saint-Germain qui vient de faire signer Benjamin Stambouli pour 5 ans. On va voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, vous nous appelez, supporters parisiens, au 32-16 pour parler de cette recrue du Paris Saint-Germain. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h49, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h. Ensuite ce sera l'after avec Florent Gautreau. Ils vont également parler dans l'after de Benjamin Stambouli, joueur du PSG désormais. Le milieu de terrain a signé pour 5 ans en provenance de Tottenham. Un transfert qui est estimé entre 8 et 9 millions d'euros. Il est là pour remplacer numériquement Johan Cabaye. A priori, il devrait donc être à Paris pour être remplaçant, mais tout ça c'est encore un peu flou vu que Thiago Motta a exprimé ses envies de départ. Benjamin Stambouli s'est exprimé tout à l'heure après sa signature, heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain.
C'est des grands joueurs, donc ils ont la classe de savoir recevoir. Ils m'ont épargné la petite chanson ce soir, donc je suis assez heureux, je vais pouvoir dormir tranquille. Mais bon, je me prépare pour demain, mais tout s'est bien passé en tout cas. De pouvoir côtoyer ces gens-là tous les jours, ça va me permettre de passer un palier. Je vais les observer avec grande attention et essayer de tirer le maximum de ce que je peux. Voilà, je pense que c'est des gens qui sont ouverts à donner des conseils. Et donc c'est important aussi, ça a beaucoup pesé dans ma décision, parce que le calibre de ces joueurs-là font que individuellement, je vais beaucoup progresser.
Alors le président du PSG, Nasser El Khelaifi, a évidemment dit tout le bien qu'il pensait de sa nouvelle recrue. Il a prouvé l'impact qu'il pouvait apporter au milieu de terrain, dit-il, à la fois sur le plan athlétique et technique. La France va retrouver un joueur qui a affiché beaucoup de promesses quand il était en Ligue 1. Voilà ce que dit Nasser El Khelaifi. Bon, la Ligue 1 c'est bien, mais Benjamin Stambouli, s'il vient à Paris, c'est aussi parce qu'il a très envie de disputer à nouveau la Ligue des Champions.
J'avais pu goûter à cette compétition avec Montpellier à l'époque. Et c'est vrai que c'est le genre de compétition pour laquelle on espère jouer au foot quand on est petit. Donc voilà, de pouvoir retrouver cette compétition-là, ça a aussi pesé dans ma décision. Donc voilà, maintenant il y a un objectif qui, sur les années à venir, qui est de gagner la Ligue des Champions. Et la dimension qu'a pris Paris aujourd'hui, on les retrouve parmi les plus grands clubs européens. Donc c'est quelque chose aussi qui a pesé dans ma prise de décision. Et je suis fier de faire partie de ce projet-là aujourd'hui.
Benjamin Stambouli, fier de faire partie de ce projet parisien. Est-ce que les supporters parisiens partagent son enthousiasme? On va voir ça tout de suite avec Stéphane au 32-16. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Virginie.
Alors, je crois que vous n'êtes pas forcément ravi de cette recrue parisienne.
C'est un peu, il n'y aurait pas eu l'histoire Mota, j'aurais pu comprendre, c'est-à-dire que je me serais dit, allez, il reste un an, voire deux, s'il prolonge d'un an à Mota, Stambouli est là pour cinq ans, il va apprendre, et quand Mota partira ou arrêtera, bah Stambouli aura eu une super formation, comme il le dit, d'ailleurs on l'entend dans son discours.
Il a très envie d'écouter les joueurs parisiens en place. Hein.
Là-dessus, il est assez clair, on voit qu'il est réaliste, il sait que de toute façon, il n'est pas titulaire et qu'il est là pour apprendre. Et donc, dans le projet parisien, en disant, voilà, on va chercher des jeunes et monter quelque chose pour l'avenir, ça aurait pu être intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que là, on le critique, on lui tombe dessus, mais il ne faut pas oublier non plus que la saison que fait Montpellier, où ils battent Paris dans le sprint final, Stambouli est quand même accrocheur. Alors, il n'a pas le niveau Ligue des Champions, c'est pas un top joueur, c'est pas Verratti, on est d'accord, mais après, dans l'émulation et dans le contact avec d'autres joueurs, ça aurait pu devenir. Maintenant, si Mota part, je vois pas trop l'intérêt.
C'est-à-dire que là, pour l'instant, numériquement, il est là pour remplacer Johan Cabaye, c'est-à-dire donc pour être remplaçant, justement. Effectivement, si Thiago Mota part, il a exprimé ses envies de départ. Pour l'instant, le PSG veut le retenir, hein, mais c'est pas encore complètement fait. Donc, en fait, ce qui fait un petit peu peur, Stéphane, c'est que à ce moment-là, Stambouli soit titulaire au Paris Saint-Germain.
Moi je pense ce serait super juste. En plus là je pense que, enfin on dit titulaire, mais si le dossier Di Maria se conclut, de toute façon il y a déjà dans la composition du Paris Saint-Germain un petit souci, puisque si on regarde les performances de Pastore, maintenant il devient un titulaire presque indiscutable. Di Maria, s'il arrive, c'est pas pour être sur le banc. Si Zlatan ne part pas, enfin là on entend qu'il partirait peut-être après le trophée des champions, mais si Zlatan ne part pas, enfin les places sont commencées à être comptées, et donc au milieu de terrain, ça commence à devenir très compliqué de gagner sa place, même si Mota s'en va. Donc je pense que ça pourrait être compliqué. Et puis je pense que quand Cabaye est arrivé, c'était un joueur
qui
avait
confirmé, déjà... Il était plus confirmé que Stambouli aujourd'hui.
Voilà, Stambouli, pour moi, c'est de la formation. C'est-à-dire que c'est comme un joueur qu'on recrute pour faire de la formation, comme Lucadine quand il est arrivé l'année dernière, il savait qu'il était là pour être formé par Maxwell, et le peu de temps de jeu qu'il devait avoir, il devait prouver qu'il était bon. Maintenant, ça c'est pas forcément.
Merci beaucoup Stéphane, on a un peu pris par le temps, donc je suis obligée de te couper. Merci beaucoup, on a bien compris ce que tu pensais de l'arrivée de Benjamin Stambouli, et à très bientôt sur l'antenne d'RMC Stéphane.
À bientôt, au revoir.
Nous on va respirer le bon air de la montagne, hein. On va retrouver Laurent Depré à Tignes avec le 15 de France.
RMC Rugby 2015.
Laurent, bonsoir.
Bonsoir Virginie.
Alors qu'est-ce que c'était cette surprise là? On sait qu'ils partaient en plein air, eux-mêmes ne savaient pas où ils allaient. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour les joueurs du 15 de France qui préparent la Coupe du Monde?
Une sorte de triathlon pas adapté pour des rugbymen, quelque chose de très difficile à faire, quelque chose qui a commencé par une surprise qui n'était pas une surprise du staff, un contrôle antidopage inopiné à 7h du matin, alors que le départ était à 7h30. C'était pour 8 joueurs, donc capitaine du sautoir, donc ces 8 joueurs ont eu un petit peu de retard pour rattraper les autres. Donc première étape du triathlon, alpinisme. La Via Ferrata, sur le domaine de Val d'Isère, c'est pas d'escalade, c'est l'alpinisme. Il faut bien savoir, 200 mètres d'appliques, des ponts de singes, encore des passages très techniques, heureusement bien encadrés par les moniteurs. Il y a quand même des beaux bébés comme Winnie Atonio qui fait 138 kilos, Sébastien Vrahamaina, les piliers, c'est quand même plus facile quand on est diminué au milieu d'ouverture. Eh bien, ils ont tous franchi sans encombre, même ceux qui avaient le vertige, il y en avait pour qui c'était très compliqué, stage de cohésion. Étape 1, réussi.
Parce deuxième, que le vélo, là, ils ne sont pas tellement taillés comme Chris Froome, hein, quand même, les rugbymen du 15 de France. Hein.
Non, on va dire que tu prends 3 Chris Froome et tu arrives à faire peut-être un Thierry Dussautoir.
Voilà. Pour donner une idée.
Pour donner une idée, voilà. C'est-à-dire que le standard moyen, on dirait, joueur de rugby, c'est 1m90, 12 pour 105, 110 kilos. Voilà, ce que c'est à peu près actuellement. Ça va de 85 kilos, Morgan Parra, jusqu'à 138, 140 kilos. Donc, oui, effectivement. Alors, la deuxième étape, bah, c'est compliqué. T'as bien planté le décor pour des physiques comme ça. C'était jour de repos du Tour de France. Mais ils ont fait du vélo. Et puis, pas n'importe quoi. Le col de l'Isran. 2800 mètres, voilà. 18 km d'ascension, 5, 6, 7, 8% de dénivelé, de pente, chapeau, ils ont réussi, il y a eu de la casse, 4 vélos qui ont lâché parce que, évidemment, les vélos, ils n'ont pas supporté tous le poids.
Bah, c'est-à-dire qu'avec toute la muscu qu'ils ont faite depuis le départ, on comprend que les vélos lâchent un petit peu. Merci Laurent, parce qu'on t'entend pas très bien, là, tu es dans tes montagnes avec le 15 de France, donc on va te retrouver très rapidement, bien sûr, sur RMC pour préparer cette Coupe du Monde de rugby. Alors que Florent Gautreau, lui, est arrivé, on l'entend très bien.
Donc c'est foot.
Bah oui, c'est foot,
c'est
plutôt.
Plus rugby, plutôt foot dans plutôt, l'after, hein. Absolument Virginie. L'after qui prend le relais jusqu'à 23h au programme Stambouli au PSG. L'œil de coach Courbis, qu'il connaît bien, l'ancien Montpellier, hein. Supporter parisien, vous, on vous attend au 32-16. On va débattre de l'arrivée de ce joueur, plus les infos transferts du jour, le mercato bordelais et stéphanois, l'OM avec la question du jour sur Florian Thauvin, le quiz et le je m'en fous pas. L'after arrive tout de suite.